Alors j'invite Jonah, pardon, j'aurais dû dire, je t'invite à venir, on va commencer la prédication tout de suite. Donc c'est un grand plaisir d'accueillir Jonah, mais je voudrais d'abord dire un grand merci au groupe de louanges. Pendant que j'écoutais les chants que nous avons chantés, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vaut la peine d'accentuer? Mais le problème était qu'il y avait tellement de choses qui valaient la peine d'accentuer que je ne savais pas que dire, mais nous avons chanté « Comment ne pas t'abandonner ma vie ?» Effectivement, si Jésus est mort pour nous, comment ne pas lui abandonner notre vie ? Alors, Jonah vient originalement des États-Unis, même de Minnesota, qui est un peu au nord, au milieu vers le nord. Et il a fait des études de théologie et philosophie aux États-Unis. Il fait encore des études de théologie à Lyon, où il habite maintenant. Il est aussi assistant pasteur à l'église réformée évangélique de Lyon. Mais quand on dit réformé évangélique, le mot évangélique veut dire vraiment évangélique. Nous l'avons invité d'abord pour une journée hier du réseau des scientifiques évangéliques qui était sur un sujet un peu compliqué. Est-ce que la science a le monopole de la connaissance? Et nous avons dit non. Je crois que tous les conférenciers étaient d'accord que non. Nous avons bénéficié de Matthias Egg parmi d'autres, mais aussi de Jonah, qui a parlé du thème d'un de ses livres qui s'appelle en anglais Insanity, parce que son message est que si on n'est pas vraiment basé sur la connaissance de Dieu, notre pensée n'a pas de bon fondement. On pourrait même dire que nous étions fous. Mais il a un autre sujet aujourd'hui. Vous savez que nous avons eu toute une série de prédications sur l'Ecclésiaste. Et aujourd'hui, on est tout à la fin d'Ecclésiaste, chapitre 12. Et le thème de sa prédication est le dernier mot. Donc, Jonah, je t'invite à venir et on va prier pour toi. Et ensuite, je me réjouis de t'écouter et merci d'être venu depuis Lyon. Au Seigneur, bénis Jonah, nous te prions qu'il puisse vraiment être inspiré par toi et bénis chacun de nous que nous puissions écouter sa prédication illuminée par ton Saint-Esprit. Amen.
Merci à vous tous, merci pour votre accueil aujourd'hui. On va lancer tout de suite dans ce texte d'Ecclésiaste, chapitre 12, versets 8 à 14. Je vais lire ce texte en quelques instants. Mais avant, je veux poser quelques questions. Vous rappelez-vous peut-être d'un moment dans votre vie où vous aviez besoin de conseils sur un sujet important ? Peut-être vous aviez besoin d'un conseil sur un sujet, au sujet d'une intervention médicale majeure ou quelque chose comme ça. Peut-être vous aviez besoin de conseils pour un grand achat. Ou peut-être encore vous aviez besoin de conseils sur la prochaine étape dans une relation ou sur une question spirituelle qui ne cessait de vous hanter. Ou sur d'autres grandes décisions qui changeraient peut-être la vie. Rappelez-vous de ce moment-là. Qu'avez-vous fait pour répondre à vos questions difficiles? Quel conseiller avez-vous consulté à ce moment-là? Quelle personne avez-vous écouté au final? Quelqu'un peut-être de sage chercherait un spécialiste, n'est-ce pas? Quelqu'un de bien informé, compétent, sincère dans sa parole, quelqu'un qui nous dit la vérité et non pas ce qu'on veut entendre. Par exemple, pour une intervention médicale, nous consulterons un médecin spécialisé et non pas un guérisseur sorcier, n'est-ce pas? Pour un grand achat, nous solliciterons notre conseiller financier et non pas un voisin qui a déclaré faillite. Pour un conseil sur une relation, nous parlerons à quelqu'un de mûr qui est fidèle à son époux ou son épouse depuis des années et non pas un ami divorcé déjà 4 fois. Pour une question spirituelle très importante, nous consulterons un pasteur ou un frère ou sœur de l'Église qui est expérimenté dans la foi chrétienne, et non pas quelqu'un qui est un soi-disant intellectuel et qui est débranché de toute réalité spirituelle. Qui a le dernier mot? C'est ça la question. Qui a le dernier mot sur les choses les plus importantes dans la vie? Aujourd'hui, nous arrivons à la fin du livre de l'Ecclésiaste, ou le Coëlète, ou l'Ecclésiaste, ça dépend sur la traduction que vous utilisez, mais ce Coëlète ou Ecclésiaste résume tout en nous donnant son dernier mot, son conseil final. Alors, rappelez-vous que le mot Ecclésiaste ou le mot Coëlète, en fait, le mot Coëlète est un mot en hébreu qui est traduit comme Ecclésiaste en grec, mais ce Coëlète était un enseignant ou un prédicateur ou encore un philosophe. C'est celui qui rassemble le peuple afin d'inculquer en eux la capacité de discernement. Le Coëlète était docteur en absurdité. D'accord ? Il a écrit sa thèse sur la vanité de la vie. Et après son long discours, qui a duré maintenant 12 chapitres, le Coëlète nous révèle le dernier mot, la chose la plus importante, le sens de la vie. Et voici ce qu'il dit dans le verset 8, la fin de son discours. Vanité des vanités, tout est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Voilà, on va lire maintenant ce texte, Ecclésiaste chapitre 12, verset 8 à 14. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la connaissance au peuple. Il a écouté, sondé, mis en ordre un grand nombre de proverbes. L'Ecclésiaste a tâché de trouver des paroles agréables, transcrites exactement. Ce sont des paroles véridiques. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Les auteurs du recueil sont comme des clous plantés. C'est le don d'un seul pasteur. Du reste, mon fils, tire son instruction. On ne finirait point de faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la conclusion de tout le discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'homme, car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Notre Seigneur, ta parole est vraiment une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, comme on lit dans la Bible. Nous te prions, Seigneur, afin que tu illumines le chemin devant nous aujourd'hui. Aide-nous dans notre compréhension de ce texte et aide-nous aussi dans l'application de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, qui a le dernier mot? Qui a le dernier mot sur des choses les plus importantes? Alors ça dépend de notre perspective. Le dernier mot du Coëlète est vanité des vanités, tout est vanité, dans le verset 8. Ces mots peuvent entraîner le désespoir comme pour ceux qui s'arrêtent là. Mais n'oubliez pas que le Coëlète est en train d'évaluer la vie sous le soleil, dans un monde dépourvu de Dieu. Dans ce monde-là, la vanité gagne à la fin. Dans un monde sans Dieu, la vanité gagne à la fin. Mais dans les versets 9 à 14, le narrateur qui enregistre la parole du Qohélète ici, qui résume cette parole, nous donne une meilleure perspective. Il revient à Dieu et à la réalité sous le soleil. Il nous rappelle la mission du Qohélète qui est de nous faire comprendre qu'une vie sans Dieu est une vie futile. Et donc le texte tient en tension ce que le Qohélète dit et ce qu'il veut dire, ce qu'il veut communiquer à nous. Commençons donc par les versets 8 à 10 qui nous donnent le dernier mot du Qohélète, suivi par l'affirmation de ce mot par le narrateur. C'est un message répété à plusieurs reprises dans le récit. Le désespoir de la vanité est la meilleure réponse possible dans un monde sans Dieu. Il n'y a rien à ajouter, nous dit le narrateur. Le Qohélète a dit la vérité. Si Dieu ne rentre pas en compte, toute votre sagesse, tout votre travail, tous les plaisirs, toutes les richesses, tous les pouvoirs sont futiles en fin de compte. Si Dieu ne rentre pas en compte, vos efforts d'améliorer ce monde seront oubliés par la prochaine génération qui se fichera de vous, finalement. Si Dieu ne rentre pas en compte, ce serait mieux de ne pas exister plutôt que de souffrir dans ce trou noir absurde et frustrant qui est l'univers, où finalement tous vos projets sont vains. C'est ça le discours du Qohélète dans le chapitre 1 à 12. Un roman que j'apprécie beaucoup s'appelle Le vieil homme et la mer. C'était écrit par Ernest Hemingway, un écrivain américain. C'est un court roman qui, pour moi, illustre très bien cette lutte contre la futilité de la vie. L'histoire concerne un vieux marin pêcheur, pauvre mais très expérimenté dans son travail. Et le livre raconte son combat épique contre un gigantesque marlin, qui est probablement la plus belle prise de toute sa vie. Donc après 3 mois sans rien attraper, le vieil homme rencontre ce marlin hors norme qui se manifeste finalement. Et la lutte entre le pêcheur et le poisson dure trois jours. Et malgré un délire qui commence à le saisir, le vieux pêcheur est finalement vainqueur. Mais en rentrant au port, dans ce livre, avec sa prise remorquée derrière son bateau, les requins arrivent. Et au bout de quelques heures, il ne reste plus rien du pauvre marlin, entièrement mangé par les requins. Ce beau poisson est réduit à un squelette. L'histoire nous rappelle la lutte entre l'homme et la nature, c'est peut-être ça le but de ce livre, mais elle évoque bien la futilité de la vie. C'est une lutte futile. Toute cette lutte pour rien. Tout ce travail pour rien. Vanité des vanités, c'est ça l'idée. Dans l'Ecclésiaste chapitre 12, le Qohélète termine exactement comme il a commencé dans le chapitre 1. Sa dernière critique d'un monde sans Dieu est que ça nous ramène au point de départ, à la vanité. On commence par rien, on termine par rien. C'est exactement pareil. Mais ensuite, le narrateur ajoute plus d'informations en nous donnant un dernier conseil. Les versets 11 à 12 affirment l'origine divine de ces paroles, en nous conseillant de les écouter et en nous prévenant contre les quantités inépuisables de sagesse humaine ajoutées à la parole de Dieu. On peut résumer ces deux versets par ceci. L'homme cherchera la sagesse en lui-même, ad infinitum, mais la parole de Dieu est ce qui compte à la fin. Je pense que ces versets forment une affirmation de l'inspiration divine du livre de l'Ecclésiaste parce que la référence au pasteur dans le verset 11 devrait être interprétée comme une référence à Dieu, je pense, qui est le pasteur ultime. Le fait que l'auteur de ce livre est déjà désigné par le mot ecclésiaste ou coélète, indique que ce pasteur du verset 11 est quelqu'un d'autre. La paternité de ce livre a déjà été attribuée au nom du coélète ou ecclésiaste, et donc ce ne serait pas très logique d'employer ici le mot pasteur quand le mot coélète suffit. Mais de plus, ce pasteur est désigné par le mot seul, un seul pasteur. Il est mis à part comme quelqu'un d'unique. Le coélète, par contre, est un homme parmi les autres, même s'il est le plus sage des hommes. Mais Israël avait d'autres pasteurs, d'autres prophètes qui ont révélé la sagesse de Dieu déjà. Et donc le titre « un seul pasteur » désigne quelqu'un à part, une source divine de la révélation. Encore, ce texte affirme l'inspiration divine de ce texte. Et donc par la bouche du coélète, Dieu nous montre la vanité de la vie quand nous nous éloignons de lui. Il nous montre l'alternative absurde d'une vie sans lui. Ça nous montre que Dieu a le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Alors ce texte n'est pas en train de dire que la richesse de la littérature humaine est une mauvaise chose, pas du tout. Il n'est pas en train de dire que des commentaires et des œuvres de théologie et philosophie apologétique sont une perte de temps. Ce n'est pas ça l'idée. Il n'est pas en train de dire que la richesse de la recherche résumée dans les mémoires et dans les thèses est superflue, que les émotions de l'homme évoquées dans la poésie et la prose sont inutiles. Ce n'est pas ça l'idée. Par contre, il fait une simple observation sur le fait que les meilleures révélations des hommes ne remplacent pas la révélation de Dieu. Il n'y a rien à ajouter à la vérité spirituelle qui est déjà contenue dans la parole de Dieu. Même pour nous aujourd'hui, on n'a pas besoin d'ajouter plus à la révélation de Dieu. On a tout ce qu'il faut pour comprendre le plan rédempteur de notre Seigneur. Alors imaginez que vous mangez dans un des meilleurs restaurants lyonnais. D'accord ? Chez moi, à Lyon, c'est le capital gastronomique de la France. On a des très bons restaurants là. Donc imaginez que vous mangez dans un des meilleurs restaurants lyonnais, un restaurant étoilé. D'accord ? Après avoir mangé une des meilleures entrées que vous n'avez jamais mangées jusque-là, le garçon apporte un plat principal extraordinaire. D'accord ? C'est un filet de viande tendre et délicieux, assaisonné à la perfection et cuit à point. C'est parfait. Mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Imaginez que vous renvoyez ce plat magnifique en insistant pour que le chef de cuisine cuise encore la viande jusqu'à ce qu'elle devienne une semelle. D'accord ? Ensuite, vous mettez la viande entre deux tranches de pain à hamburger en ajoutant du ketchup et une tranche de cheddar. Quelle horreur ! N'est-ce pas? C'est scandaleux ce que vous faites. Mais ça, c'est exactement ce qu'on fait quand on ajoute des choses à la parole de Dieu, qui est déjà parfaite. Vous voyez? La sagesse que Dieu nous révèle est comme un aiguillon, selon ce texte, un aiguillon qui nous pousse vers la vérité. Et en même temps, la sagesse que Dieu nous révèle est comme un clou qui nous attache à la vérité. Les versets 11 à 12 nous rappelle que même si la vérité biblique est difficile à écouter des fois, elle sert à réaliser un objectif important, le plan rédempteur de Dieu dans ce monde déchu. Il faut que nous tenions compte de ce conseil, même si, bien sûr, nous sommes des chrétiens attachés à la parole de Dieu. Le risque pour nous, les évangéliques, n'est pas d'ajouter plus d'écriture à la Bible, comme le font certains sectes hétérodoxes, c'est-à-dire des églises en erreur doctrinale. Nous aimons la sagesse de Dieu, n'est-ce pas, en tant qu'évangéliques. Nous aimons la Bible. Mais peut-être que notre rejet de la révélation de Dieu est plus subtil des fois. Notre tendance est de justifier notre orgueil, notre avidité, notre immoralité sexuelle, en disant « oui, mais, oui ». Mais oui, la Bible dit que, mais elle a besoin de mon interprétation lumineuse, n'est-ce pas? Donc il faut faire attention avec ça. Donc qui a le dernier mot? C'est vraiment ça la question. Qui a le dernier mot sur les choses les plus importantes dans la vie? Est-ce que c'est le monde sous le soleil, avec toute sa futilité, toute sa vanité? Ou est-ce que c'est Dieu qui nous dit la vérité? Selon la conclusion de l'Ecclésiaste, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Et ce dernier mot de Dieu nous oriente vers lui. En revenant à la fin du livre, nous voyons que la valeur pédagogique de ce livre se trouve dans le fait qu'on passe 12 chapitres en apprenant comment ne pas penser, comment ne pas vivre. Ces 12 chapitres ont illustré un monde sans Dieu avec tout son désespoir. Mais maintenant, en deux simples versets situés à la fin, on voit le but de ce livre, l'idée principale, la chose à retenir par-dessus tout. Crains Dieu et observe ses commandements. Crains Dieu et observe ses commandements. Crains Dieu tout simplement. Humilie-toi devant lui et donne-lui l'honneur qui lui est dû. Observe ses commandements. Mais comment? C'est ça la question. Comment? Ça, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Crains Dieu. Alors, les gens de toutes les religions font pareil. En fait, si on regarde toutes les religions, c'est vraiment le même message. Crains Dieu, observe ses commandements. Mais il y a une différence avec le christianisme. Parce que si on regarde toutes les autres religions, on voit ça. Les gens qui craignent leur Dieu en observant ses commandements. Ils font toutes les choses nécessaires pour plaire à leur Dieu. Ils portent des vêtements sacrés, peut-être. Ils mangent ceci et pas cela. Ils se baignent dans des fleuves sacrés. Ils prient un certain nombre de fois par jour afin que leur Dieu les écoute. Ils passent leur vie dans la méditation, peut-être. Ils font leurs bonnes œuvres. Ils cachent leur hypocrisie et leur cœur pécheur et endurci derrière une religion. N'est-ce pas? On est tous très forts dans ce domaine. Et donc, quand on lit, craint Dieu et observe ses commandements, ça veut dire quoi pour nous en tant que chrétiens? Est-ce que c'est juste une liste de choses à faire? Quand on lit, craint Dieu, je pense que ça veut dire qu'il faut mettre ce dernier mot dans le contexte du message de la Bible. Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'une crainte de Dieu, un vrai amour pour lui et humilité devant lui vient par le don de sa grâce. Ça veut dire que nous n'avons pas le dernier mot sur notre propre salut. Le dernier mot est à Dieu. La conclusion de tout le discours a eu lieu lorsque Jésus a dit « Tout est accompli à la croix, où il est mort à notre place ». Pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus par la foi et qui s'humilient devant lui dans la repentance, la conclusion de tout le discours, quand Jésus nous acquérera au ciel un jour, sera bien bon et fidèle serviteur. C'est ça le dernier mot. Vous voyez que dans la Bible, la crainte de Dieu est liée à une relation initiée par Dieu, maintenue par sa grâce. Nous pensons qu'il y a toujours plus à dire sur le sens de la vie, mais la conclusion s'était déjà révélée. La réponse ne se trouve pas dans un grand exploit réalisé ou dans une grande réussite, mais en nous humiliant devant Dieu. Dieu a le dernier mot. Alors, pour conclure, peut-être aujourd'hui, vous vous comptez parmi ceux qui cherchent toujours le sens de la vie. Et si c'est votre cas, je vous encourage à vous poser la question, qui a le dernier mot? Qui a le dernier mot? Les hommes faillibles ou Dieu? Les philosophes consacrent leur vie à cette question. Dans la philosophie, on a des arguments dont on répond par des contre-arguments, dont on répond encore par des nouveaux arguments. C'est ça le moteur de la philosophie. Mais la plupart des philosophes ont du mal à dire « voici la conclusion de tous les discours ». Comme le Coëlette, il termine par la même vanité dont il commence. Mais d'une manière similaire, souvent nous sommes plus intéressés par les questions que par les réponses. Nous cherchons la conclusion du discours dans le prochain argument, tout en oubliant que la réponse a été déjà révélée en Christ. On a tous besoin de cette vérité. Nous avons tous besoin de la crainte de Dieu qui se manifeste quand on se repentit de nos péchés, quand on croit en Christ, qui est notre Sauveur, notre Seigneur. Mais peut-être pour vous aujourd'hui, vous faites face à d'autres vanités, d'autres futilités de la vie ou du monde. Peut-être que vous souffrez de blessures émotionnelles ou des abus du passé. Alors, qui a le dernier mot sur ces questions-là? Sur cette souffrance? Est-ce que c'est le monde, avec toute sa futilité, qui a le dernier mot? Donnez-vous le dernier mot à votre amertume, peut-être? Donnez-vous le dernier mot aux tromperies et aux mensonges du monde? Ou au Dieu qui pénètre l'absurdité de ce monde en guérissant nos blessures? Qui a le dernier mot? Peut-être que vous avez échoué sur un projet important, que vous êtes découragé maintenant avec la vie ou le travail. Qui a le dernier mot là? Votre découragement? Le monde qui vous offre toute une série de divertissements afin que vous ne vous confrontiez pas avec le vrai problème? C'est ça le dernier mot? Ou est-ce que c'est Dieu qui vous a fait, qui vous a déclaré bon, qui vous a déclaré valable, qui vous aime? Qui a le dernier mot? Peut-être que vous vous comptez parmi ceux qui ont de la difficulté à accepter leur corps, leur apparence physique ou d'autres choses comme ça dans la vie, leur intelligence, je ne sais pas. Qui a le dernier mot sur ces questions-là? Le monde ou Dieu? Le monde sous le soleil peut vous offrir un remède psychologique temporaire, peut-être. Mais il manque le contexte éternel. Le monde vous offre des standards inaccessibles. Il vous offre de la vanité et de l'absurdité. Donnez donc le dernier mot à Dieu, le Dieu de toutes choses, qui passe toute œuvre en jugement, comme on lit dans ce texte. Le dernier mot sous le soleil est vanité des vanités, comme on lit dans le verset 8. Quand la conclusion de tous les discours est centrée sur les êtres humains, le dernier mot est une vapeur qui disparaît dans le vent. Mais quand la conclusion de tous les discours est centrée sur Dieu et sur l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix, le dernier mot est un mot d'espérance, un mot d'amour, un mot de grâce pour toute éternité. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions de ce texte, de ta parole. Nous te remercions d'avoir nous rappeler que c'est toi qui as le dernier mot. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à ta parole, et non pas dans la vanité de ce monde. Notre Seigneur, nous te remercions pour la croix, pour la grâce, pour l'amour. Au nom de Jésus. Amen.